et qui ne sont plus. Pourquoi les voix de ceux que j'aimais ne répondent jamais? Soir était tombé tout à fait, mon cœur saignait. Il faisait chaud et j'avais froid, seul sur ce toit. J'ai demandé au vent de se coucher auprès de moi. J'ai demandé au temps de s'arrêter rien que pour moi. Demandez au vent de cesser de jouer au vent mauvais. J'ai demandé au temps que ceux que j'aime ne meurent jamais. Le vent dans un souffle m'a répondu, ami, entends-tu? La voix de ceux que tu aimais, qui ne meurent jamais.
Bienvenue dans l'émission Radio Cartable du jeudi 2 mai 2024.
Nous sommes les CM1 CM2 de l'école Maurice Thorez B et nous sommes ravis de vous présenter l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes déjà en mai.
Eh oui, et hier c'était le 1er mai, un jour férié. Sais-tu ce que l'on fête ce jour-là?
Il me semble que c'est la fête du travail.
Tu as raison.
Mais qu'est-ce que c'est exactement?
Contrairement à d'autres jours fériés, la journée du 1er mai ne trouve pas ses origines en France, mais aux États-Unis. Le 1er mai 1884, des syndicats ouvriers américains décident de se mobiliser pour que la journée de travail soit limitée à 8 heures.
Mais pourquoi le 1er mai?
Aux États-Unis, cette date correspondait au premier jour de l'année comptable des entreprises. Ce jour-là, de nombreux travailleurs voyaient leur contrat se terminer et devait aller trouver du travail ailleurs. Cette journée aux États-Unis inspira les syndicats français et les travailleurs défilèrent la première fois le 1er mai 1890. Les revendications des travailleurs français étaient les mêmes qu'aux États-Unis. Mais un an plus tard, le 1er mai 1891, lors des manifestations, la situation se dégrada rapidement et plusieurs personnes trouvèrent la mort dans la commune de Fourmies, dans le Nord. Cette journée devint à partir de là de plus en plus importante. Et au fil de l'histoire, elle devint un jour férié et payé.
Mais pourquoi souffre-t-on du muguet ce jour-là?
À l'origine, lors des manifestations en France, on portait une fleur d'églantine pour rendre hommage aux manifestants morts à Fourmies. Plus tard, elle fut remplacée par le muguet, qui symbolise aussi le printemps.
Merci pour toutes ces informations. La journée du 1er mai, journée des droits des travailleurs, est vraiment très importante. Et passons maintenant au sommaire.
Voici le sommaire.
À
14h03, retrouvez Visite du studio, une séquence réalisée par les CE2 de l'école Maurice Thorez B.
Lors de leur visite du studio de Radio Cartable, les CE2 ont découvert comment utiliser et parler au micro. Pour ce faire, ils se sont entraînés à dire les vieilles langues du capitaine Haddock au micro.
Tu en connais, toi ?
Bah ouais, j'en connais pas mal, mais mon préféré, c'est Bachibouzouk. Et toi ?
Moi, j'aime bien un jus de poubelle.
On a hâte de découvrir comment les CE2 s'en sont sortis.
À 14h10, place à Actualité d'ici et d'ailleurs, avec les CE1 de l'école Rosaline Franklin. Ils travaillent toujours avec Un jour une actu et nous présentent cette fois la revue des unes du mois de mars 2024.
À 14h20, on retrouvera 12 enfants du centre de loisirs de Maurice Thorez. Après avoir assisté au spectacle des larmes d'eau douce de Raïm Chabot, ils ont interviewé l'équipe du spectacle.
À 14h35, les CE1 de l'école Rosaline Franklin décryptent l'affiche du mois de mars des essentiels d'un jour une actu et se pose la question, qu'est-ce qu'un média ?
Ça, c'est un sujet intéressant. On est pressé d'en savoir plus.
Enfin, 14h40, retrouvez une interview de Virgile Pierquin, responsable du secteur amateur de l'UEC Hand à Ivry. Par les CM2 de l'école Rosalie Franklin.
Comme tous les cycles 3, ils ont eu une période d'initiation au hand avec Virgile et ils ont décidé de lui poser davantage de questions sur son travail.
Mais nous aussi, on a eu hand avec Virgile cette année.
Et oui, d'ailleurs, nous lui passons le bonjour et nous avons hâte d'entendre ses réponses.
Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour, je m'appelle Anit.
Bonjour, je m'appelle Maïssa.
Bonjour, je m'appelle Sofiane.
Bonjour, je m'appelle Timéo.
Bonjour, je m'appelle Iliès.
Bonjour, je m'appelle Ethan.
Bonjour, je m'appelle Ticharan.
Mille millions de mille sabots.
Bachibouzou.
Bourge de faux jetons à la sauce tartare.
Colloquinte à la graisse de hérisson.
Espèce de mérinos mal peigné.
Ectoplasme à roulette.
Zouave interplanétaire.
Je m'appelle Asie.
Je m'appelle Louise.
Je m'appelle Thomas.
Bonjour, je m'appelle Arif.
Bonjour, je m'appelle Chessie.
Bonjour, je m'appelle Pranav.
Bonjour, je m'appelle Alassane.
Bonjour, je m'appelle Julina.
Je m'appelle Iliane.
Je m'appelle Axel.
Bonjour, je m'appelle Joachim.
Espèce de porc-épic mal embouché.
Poupée.
Bougre d'extrait de crétin des Alpes.
Patacon de Zoulou.
Maintenant, je vais vous traiter de loup-garou à la graisse de renoncule.
Bayadeur de carnaval.
Zoie à la noix de coco.
Marchand de tapis.
Hurlu-berlu.
Sombre rictérope.
Et moi, je vais dire amiral de bateau lavoir.
Nous allons écouter maintenant une chanson d'Aya Nakamura, Dja Dja.
abîmé Gebaza. J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Demandez t'y paix. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu me déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu me déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta katana, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta katana, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu dettes ça. D'après toi, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja.
D'ici
et d'ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Fatoumata et je suis élève de CE1A à l'école Rosalind Franklin. Aujourd'hui, avec mes camarades, nous allons vous présenter les unes d'un jour une actu du mois de mars. Bonjour Camille Célestini, quel était le premier sujet de mars?
Bonjour Fatoumata, avec l'arrivée du printemps, on s'est demandé comment protéger les animaux migrateurs.
Et oui, à cause des activités humaines et du dérèglement climatique, leurs voyages sont de plus en plus dangereux.
Plusieurs pays se sont mis d'accord pour mieux les protéger.
L'une des premières choses à faire est de ne pas détruire leurs habitats.
Et oui, sinon ils finissent par disparaître.
Merci Camille Cicini. Passons à l'actualité de Rad et Adam, un thème sur lequel nous travaillons avec notre maître E en ce moment.
Kifatomata, du 11 au 17 mars, c'était la semaine du cerveau.
Un organe très important puisque sans lui, on ne pourrait pas vivre.
C'est lui qui fait fonctionner l'ensemble de notre corps.
Il transmet toutes les informations grâce à de longs fils qu'on appelle les nerfs.
On l'utilise tout le temps sans se rendre compte, même en dormant.
Espérons que cela fonctionne. Par quoi terminons-nous ce mois, Essia et Mélina?
Nous parlons une nouvelle fois des Jeux Olympiques avec la rumeur qui dit qu'Aya Nakamura pourra chanter lors de la cérémonie d'ouverture.
Et alors?
Eh bien Fatoumata, figure-toi que depuis qu'elle est la cible de critiques.
En effet, beaucoup de personnes ne veulent pas qu'elle représente la France.
Il se pourrait que c'est parce qu'elle est née au Mali.
Il y a donc une enquête pour savoir s'il y a eu du racisme, ce qui est interdit par la loi.
Merci les amis pour ces nouvelles infos croustillantes. Et merci à vous qui venez de nous écouter. À bientôt.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
J'aime la chanson de ma ville, le ronronnement des voitures, la pétarade des motos, fortissimo. J'aime la chanson de ma ville, les crissements du métro, le son des marteaux-piqueurs en mi bémol majeur, le cliquetis des verres dans le pub d'en face, le chant des conversations que j'écoute depuis mon balcon. Il y a quand même un refrain qui me tape sur les nerfs au détour d'une rue.
Psst, miaou.
Psst, psst, hey mademoiselle. Psst, t'as de belles jambes, tu sais. Psst, hey, tu te retournes quand je te parle. J'aime la chanson de ma ville, le concerto des sirènes, l'orchestre des klaxons. Me diapason. J'aime la chanson de ma ville, le pot pourri des portables, la rythmique des escalateurs, en ternaire ou en binaire, les aboiements des caniches de ma voisine de palier, à 6h du matin, quand elle sort les promener. Il y a quand même un refrain qui me donne la nausée en plein cœur d'une rue. Ne me touche pas.
Psst, vas-y, t'aimes ça.
Lâche-moi. Avec ta tenue, tu l'as bien cherché. J'aime la chanson de ma ville, les poèmes écrits sur ses murs, ses lumières qui vibraphonent. Ad libitum. J'aime la chanson de ma ville, le crescendo de ses voix, de République à la Nation, à l'unisson.
Je m'appelle Arthur.
Je m'appelle Eden.
Je m'appelle Moussa.
Je m'appelle Ashraf.
Je m'appelle Samy.
Je m'appelle Gaël.
Je m'appelle Kratos.
Je m'appelle Arletis.
Je m'appelle Aïssa.
Je m'appelle Lia Joba.
Je m'appelle Andy.
Je m'appelle Diafia.
Et moi, c'est Aurélie.
Il est temps.
Ça va?
Bien.
Let's go. Go, 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 go.
Go.
Allez,
viens.
Après. Non, non, t'auras pas de caresse, tu viens. Okay. Allez, laisse les gens.
Maîtresse.
Je sais que tu veux des caresses.
Maîtresse.
Allez, s'il te plaît.
Maîtresse.
M'excuse.
Les gentilles.
Allez, viens. Tu laisses, ils sont au travail.
Maîtresse.
Allez, viens, Yoda.
C'est bon.
Allez, viens, mon garçon. Allez.
Yoda.
Allez, viens. Allez, viens.
Voilà, pas du tout.
Voilà, allez, viens.
Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse.
Correspondant du théâtre Antoine Vitesse. Nous sommes 12 élèves du centre de loisirs Torres. Nous avons Thomas.
Coucou.
Nous avons Maïssa.
Salut.
Nous avons Aïdine.
Bonjour.
Nous avons Mélina.
Salut.
Et nous avons moi. Bonjour.
Mercredi 24 avril, nous sommes allés voir Des larmes d'eau douce. Nous avons pu discuter avec les artistes en bord plateau. Il y avait le metteur en scène
Alain Baptiste.
Les deux comédiens,
Sylvia Amato, comédienne, Thierry Desvignes, comédien marionnettiste.
Le musicien,
Guillaume Julien. Nous allons raconter l'histoire du spectacle.
Le titre, en fait, il se nomme « Des larmes d'eau douce », parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui pleure des larmes d'eau douce depuis la mort de sa maman.
Ses pleurs sont précieux car dans le village, il n'y a plus d'eau.
Vu que ses larmes, on peut les boire, elle va être très convoitée par tout le monde. Ils vont la torturer pour avoir de l'eau. Son père met au travail Sophia pour gagner de l'argent.
Regardez avec attention. Les larmes passent par cette gouttière et vont directement à l'entonnoir, sans qu'une seule goutte ne soit perdue. Tout est optimisé. Ici, vous voyez la fesseuse. Ces battoirs frappent les fesses de la petite fille pour qu'elle n'arrête pas de pleurer. Et en cas de nécessité, si quelque chose s'arrêtait de fonctionner, un opérateur interviendrait en la pinçant. Avec trois autres enfants versant des larmes d'eau douce, nous deviendrons autosuffisants. Et croyez bien que j'ai pensé à tout avec tous ces enfants qui sont dans la rue. On peut en recruter une quarantaine. Vous imaginez 40 miséreux passant par la fesseuse, un rêve, non ?
La personne qui défend Sophia, c'est Felipe, qui est son ami. Et Felipe va aider Sophia à sortir de ce mauvais cauchemar.
Il y a la grand-mère aussi qui défend Sophia. Quand le village, le maire et tout ça, le père, ils voulaient rattraper Sophia. Et pendant ce temps-là, Sophia et Felipe étaient en train de partir. Et la grand-mère les retenait.
Oui, très exactement.
Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu te délivrer. Je vais te cacher. Où ? Comment ? Je ne comprends rien. Les adultes sont devenus fous. Il faut s'enfuir. Mais ma petite grand-mère, elle va être très triste. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Après, elle sera contente. Partons !
Thank you.
maintenant, nous allons décrire la mise en scène.
Sur le plateau, en fait, on voyait des feuilles mortes, des branchages. Sur des arbres, il y avait des maisons en fil de fer. Il y avait aussi des marionnettes. Il y avait aussi les acteurs et le musicien.
Pour moi, les marionnettes rendaient l'histoire plus vivante. Et quand la grand-mère racontait, on avait l'impression qu'on était à l'intérieur de l'histoire.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette pièce de théâtre ?
J'ai découvert la pièce, elle n'était pas encore éditée en livre. Il y a des maisons d'édition, peut-être tu en connais, comme Hachette, comme différentes... Là, c'est théâtral, et j'ai été lire le texte quand il était encore en tapuscrit, c'est-à-dire qu'il n'était pas édité, il était écrit à l'ordinateur. Voilà, et j'ai eu un coup de cœur quand j'ai lu l'histoire. Et donc, du coup, je me suis dit à un moment donné, on va la mettre en scène, cette pièce. J'ai réuni les acteurs, et puis on a été en lien avec cet auteur qui habite au Mexique. Et donc, du coup, on a aussi discuté avec lui sur ce qu'il avait envie de raconter, et aussi, ce que nous, on avait envie de raconter avec cette pièce. Quand je lis une histoire, je vois ce que je peux imaginer, ou en tout cas, ce qui me donne envie. Quelquefois... la musique est très très importante, là elle l'est, mais là, la marionnette aussi très présente.
Comment vous avez créé la marionnette, les marionnettes ?
Avec Thomas et Lydia, que vous ne connaissez pas, mais qui ont travaillé sur la construction des marionnettes. Et avant de construire ces marionnettes-là, on a travaillé avec Alain, Guillaume et Sylvia, avec la musique et tout ça, à chercher comment on ferait les marionnettes, de quelle taille on les ferait, parce qu'au départ on est parti sur des petites marionnettes avec des petits morceaux de bois, qui était un peu avec des feuilles, des petits morceaux de bois, comme vous voyez là. Et petit à petit, c'est devenu un peu plus grand, puis on les a habillés, on a choisi... Donc ça s'est fait vraiment au fil des répétitions, ça a duré un petit moment quand même. Et on a fini sur un mois à construire, on s'est décidé, on a fait des dessins, et on a fait vraiment voilà, les marionnettes que vous voyez là.
En quoi sont faits les cheveux, et ça vous a pris combien de temps environ ?
Ils sont tous faits en matière végétale. Parce que Alain, le metteur en scène, il voulait vraiment travailler au départ avec que des éléments naturels. C'est pour ça qu'on avait fait des petites marionnettes avec des bouts de bois, avec des feuilles, des branches. Et donc les enfants, il y en a qui ont une idée de ce qu'ils ont sur la tête, les deux petits, Sophia et Felipe.
Felipe, il a de la mousse et Sophia, elle a de la mousse et des branchages.
C'est ça. Monsieur le curé, il a de l'éponge de mer, un peu colorée. José, il a de la filasse de... La filasse de coton et de principalement de coton. Ouais. Et Monsieur le maire, lui, c'est de la paille qui est teintée en noir, mais c'était un balai brosse en fait, fait avec de la paille naturelle.
Ça sert à quoi les bouteilles qui sont accrochées aux ficelles ?
C'est pas tout à fait des bouteilles. Et ce sont plutôt des gouttes, comme des gouttes d'eau. Et ça sert, regardez ce que fait Guillaume. Voilà, ça fait ce qu'on appelle un contrepoids. Ça sert à tenir les marionnettes et ça nous permet de les manipuler un petit peu, mais en même temps aussi de ne pas avoir à les supporter avec le bras. Parce qu'il y a des... Voilà, monsieur le maire, par exemple, il pèse son poids. José aussi, le travailleur, mais... Donc si je devais les tenir, même Sylvia, ou si on devait les tenir à bout de bras, on aurait vraiment très vite mal au bras et on ne pourrait pas les tenir, en fait. Donc ça nous aide dans la manipulation. Derrière les têtes, vous avez vu, il y a comme des poignées, en fait, ce qu'on appelle un contrôle. Donc ça permet de tenir et d'orienter la tête, de la guider.
Pourquoi il n'y a que 5 marionnettes et pas d'autres marionnettes ?
Il y a les petites ombres aussi qu'on considère comme des marionnettes. Mais parce que c'est écrit comme ça, l'auteur, il a écrit pour une comédienne qui joue la grand-mère et qui raconte avec des marionnettes. Et les marionnettes, en fait, les personnages, il y en avait 5 principalement, donc... Voilà, ça a fait 5 marionnettes.
Vous avez appuyé le parallèle entre la grand-mère et la petite fille. Est-ce que c'était complètement suggéré ou vous avez appuyé ce parallèle-là ?
C'est un parti pris, c'est une forme de conte. Et dans le conte, on peut un petit peu tout se permettre aussi. Donc on s'est dit que la grand-mère aussi pouvait passer par la petite fille, mais c'est pas forcément écrit comme ça dans le texte.
J'ai cru que j'étais devenue parce que même si j'ouvrais la bouche, c'est comme si je criais dans le désert. Mais malgré tout ça, Sophia, continuez sa vie de petite fille. Un, deux, trois, soleil.
Celui qui arrive le premier au bois a gagné. À trois. Je m'appelle Malak et j'ai 11 ans. Je m'appelle Maya et j'ai 11 ans.
Alors, vous avez eu peur pendant le spectacle, pourquoi ?
Oui, parce qu'au début, on ne voyait pas les personnes qui étaient cachées en dessous des feuilles.
Au début, quand vous étiez en dessous des feuilles mortes, est-ce qu'il y avait un petit trou pour respirer ?
Oui, on est, c'est vrai que c'est pas forcément... pratique ou commode pour nous parce qu'on il y a le temps que vous voilà que vous installez il y a mais voilà au fur et à mesure depuis on apprend à se mettre dans une bonne position à plus bouger et à pouvoir simplement respirer tranquillement et les feuilles sont pas forcément voilà sur notre visage on fait en sorte de bien que Guillaume nous installe bien, en tout cas.
C'est lui qui met les feuilles. Donc il fait attention pour pas
cette forêt de feuilles.
On n'est pas devant la bouche ou sur le nez ou sur les yeux.
Que pensez-vous de la grand-mère ? Pourquoi raconte-t-elle cette histoire, à ton avis ?
Bah parce qu'elle raconte qu'est-ce que sa fille elle a vécu.
Oui.
Et bah parce qu'elle tient à sa fille parce que son père c'est incapable.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses, voilà.
Moi, je pense que c'est génial, même si au début j'ai eu peur, mais c'était incroyable.
Pourquoi c'était incroyable ?
Bah parce qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions et parfois ça me touchait parce que on peut pas obliger une fille de pleurer juste pour vendre de l'eau. Du coup, bah j'ai eu plusieurs émotions à la fois.
Quelque chose qui m'a marqué, c'est quand il tapait la petite fille. C'était pas trop gentil. J'étais un petit peu triste pour Sophia parce que la manière dont on l'a traitée, bah, c'est pas sympathique. C'est comme si on forçait quelqu'un à être en colère alors que la personne n'a pas envie.
D'accord. Est-ce que ça existe une petite fille qui a des larmes d'eau douce ?
Je pense pas.
Ouais, on pense pas.
Est-ce que ce conte nous parle quand même de notre monde ? Est-ce que ce monde existe, un monde que les enfants travaillent ? Est-ce que ça existe les parents qui vendent leurs enfants ou qui le traitent mal ?
Les parents qui traitent mal les enfants, je pense que oui, parce que dans différents pays, ce n'est pas la même loi que dans d'autres pays. C'était quoi l'autre question ?
Est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent dans le monde ?
Oui, parce qu'il y en a, ils n'ont pas assez d'argent et leurs parents, ils leur obligent à travailler.
Quand j'ai choisi cet spectacle pour qu'on vienne avec les enfants, et j'avais un peu peur parce qu'il parlait de pleurer une gamine et tout ça. J'ai pensé que ça peut être, je sais pas, des choses qu'on a l'habitude en ce moment de faire pleurer les gens, pour une tristesse en fait. Et non, en fait, je suis très contente de voir que c'était. C'était des pleurs poétiques qui donnaient une possibilité aux enfants de rêver, de imaginer en fait un monde très poétique, très sensible, et que aussi avec les arguments très sociologiques, je trouve, et ça c'est que ça vraiment ça l'a enrichi énormément. Et votre personnage, la grand-mère avec les cheveux blancs, c'est vraiment, c'était toute une rêve, et je la trouve sublime en fait, vraiment comme que vous sortez d'une conte russe en fait, je sais pas, c'est pour moi c'était très très adorable.
J'ai une question un peu personnelle, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez fait?
Ce spectacle, oui, est très important pour nous. Le sujet du spectacle, voilà, la poésie du spectacle, ce que le spectacle véhicule, c'est très important pour nous de le jouer, oui.
C'était les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse. À bientôt pour une nouvelle écoute.
Et si vous avez le petit livret du spectacle, il y a un coloriage avec tous les personnages. Faites comme moi, coloriez-le.
À bientôt.
quoi ça sert de faire du sport.
J'aime beaucoup faire du sport.
C'est vrai que les garçons sont égaux aux filles.
Des bottes, c'est intéressant ou pas?
Safia, Mohamed Ali, Jenaba, Moussa, Yasmine, Gaël et Sarah.
Nous sommes les élèves de la classe de CM1A à l'école Rosaline Franklin à Ivry-sur-Seine.
Au mois de mars, avec les essentiels d'un jour, une actu, nous sommes demandé c'est quoi le média.
Sur notre affiche, nous avons tout de suite remarqué la télévision.
Une dame et un monsieur parlent dans un micro.
C'est le journal télévisé car il y a écrit info.
La présentatrice raconte ce qu'il se passe. Elle donne des informations.
Le personnage féminin a un casque pour écouter la radio.
Ça peut être de la musique, des informations ou une émission de radio cartable.
Elle utilise aussi un ordinateur. On dirait qu'elle recherche des informations.
Le garçon, lui, il a un journal.
C'est comme un livre qui donne des informations.
Il a aussi un téléphone. Il est sûrement sur les réseaux sociaux pour s'informer.
Toutes les illustrations ont un point commun, c'est qu'elles représentent des objets qui permettent de s'informer.
On peut donc en déduire que les médias, c'est tous les moyens de s'informer.
Il est important de bien connaître les médias pour être sûr d'être bien informé.
X sagesse.
Restez avec nous dans un instant le reste de l'actualité.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lisse glissent des scies. Superposition de suppositions. Ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Donnez-moi de l'information.
Ouais, c'est ça, les...
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter. Sauf publicité. On se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse. Papier, water, l'auditeur. Coup de Trafalgar, des voitures de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. J'y chirurgicale, opération boursière, bancaire, comptage de morts qui monte et sort de l'audimat, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte.
Donnez-moi de l'information. Donnez-moi de l'information.
Allez, allez.
Donnez-moi de l'information.
Encore une fois.
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, des révélations impromptues pour mon prompteur abattu,
des débats animés
pleins de manies et de tics
journalistiques.
Manichéen et deux, et trois.
Passons à l'heure.
On se contente hâtif
d'un flot de superlatifs.
À chaque instant son plus ceci, et chacun veut son plus cela. Et tous pour un et tous pourris. On simplifie, ça amplifie. Édition spéciale, édition spéciale. Une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu. Mais moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Oui, moi j'ai tout entendu. Tout entendu, oui moi j'ai tout entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information.
D'abord les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée côté météo en tout cas.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je m'appelle Virgile Pierquin, j'ai 34 ans et je suis responsable du secteur amateur à l'US Ivry Handball.
Pouvez-vous nous présenter l'US Ivry Handball ?
L'US Ivry Handball, c'est un club de handball professionnel qui a été fondé en 1947. C'est aussi un club populaire puisqu'on n'a pas que des professionnels. On a aussi un secteur amateur qui a 22 collectifs, des garçons aux filles. On accueille des 3 ans jusqu'au plus de 16.
Depuis quand faites-vous du handball ?
J'ai commencé quand j'avais 5 ans, donc en 1995, donc ça remonte maintenant. J'ai commencé parce que mon papa faisait du handball au club, ma maman en a fait, ça a été la mascotte du club aussi. Mon grand frère a fait toute sa formation au club, mon petit frère après moi, donc c'est un peu une histoire de famille. Aujourd'hui j'ai arrêté depuis que je suis papa, mais je suis toujours entraîneur et salarié au club.
Quelle étude avez-vous faite pour exercer ce métier ?
Alors en fait, il y a plusieurs parcours possibles qui sont un peu distincts, surtout deux. Il y a ce qu'on appelle les diplômes fédéraux. Ce sont des diplômes qu'on passe avec la Fédération Française de Handball, donc qui sont vraiment spécifiques sur l'entraînement de handball, mais qui sont pas reconnus par l'État. Donc on peut pas être employé dans un club avec un diplôme fédéral. Par exemple, on peut être employé dans un club avec un diplôme d'État de gymnastique, mais pas avec un diplôme fédéral de handball. Donc ce qu'il faut passer, en tout cas moi ce que j'ai passé un BPJEPS sport collectif avec une mention handball en contrat d'apprentissage avec le club qui a duré 2 ans, et suite à ça j'ai été embauché en CDI, mais j'ai et des diplômes fédéraux de handball et un diplôme d'état d'éducateur sportif.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
J'aime beaucoup être au contact des enfants dans les écoles tous les jours, parce que je fais des séances de handball dans les écoles primaires de la ville, principalement avec les CM1 et CM2 tous les jours. C'est la diversité de mon poste aussi, parce que j'ai une partie administrative au bureau avec les licences, la gestion du matériel, la gestion relationnelle des entraîneurs, parce que je gère les 22 entraîneurs du secteur amateur. Et j'entraîne aussi les moins de 13 ans, l'équipe 1 du masculin, et l'école de hand le mercredi après-midi. Donc c'est surtout la diversité de mon poste qui fait que j'aime beaucoup ce que je fais.
Quelles sont les interventions menées par l'US Ivry Handball sur la ville envers les jeunes ivriens ?
En fait, on fait beaucoup de choses dans la ville, notamment tous les jours où on fait des interventions sur le temps scolaire, des interventions handball. L'année dernière, pour donner une idée, on a fait 53 classes. On avait fait quasiment 100% des CM1, CM2 de la ville. On fait des interventions sur la nutrition, qu'on couple avec ces interventions handball. Une sensibilisation à ce qu'est un bon petit déjeuner sain et équilibré. Et après, on travaille aussi avec les centres de loisirs. Là, on va faire un stage pendant les prochaines vacances pour les jeunes des centres de loisirs, où on finit par un tournoi. Voilà, on fait des choses en fait tous les jours avec les jeunes de la ville.
Dans quel club avez-vous évolué ?
Alors, j'ai toujours eu une licence à l'US Ivry depuis 1995. Et pendant 2 ans, j'ai eu une licence entraîneur à l'US Ivry et une licence joueur à l'US Métro, où mon papa, il était entraîneur aussi. Et après, je suis revenu à Ivry, jouer et entraîner. Mais j'ai toujours eu une licence à Ivry depuis 1995. Nickel.
Avez-vous déjà rencontré des joueurs professionnels, lesquels ?
Étant donné qu'on est un club de handball professionnel, j'en vois tous les jours, notamment ceux d'Ivry. Et puis après, on échange beaucoup à chaque fois avec les joueurs des autres clubs. Donc oui, j'en ai rencontré beaucoup depuis que je suis dans le handball. En fait, pour moi, depuis que je suis tout petit, les joueurs professionnels, c'est un peu des célébrités, parce que moi, j'ai grandi à Ivry, je suis né à Ivry, voilà, ma famille est ivrienne depuis très longtemps, et depuis que je suis tout petit, je viens voir les matchs, et j'ai toujours eu, du coup, l'admiration pour les joueurs de l'équipe première, et c'est des personnes comme vous et moi, très simples, surtout à Ivry, où en fait, on est un club professionnel, mais on reste un club professionnel populaire, où le siège du club il est ouvert au public, les entraînements de l'équipe professionnelle ils sont ouverts au public, les joueurs vont manger au restaurant municipal tous les jours avec les agents de la commune, ils sont très accessibles, donc en fait c'est des personnes très simples comme vous et moi, hein. À la fin des matchs des professionnels, si vous venez les voir, ils pourront vous signer des autographes, prendre des photos, parce qu'ils doivent monter au bar après chaque match pour voir les gens. Voilà, c'est l'esprit du club en fait.
Quel serait votre conseil à donner à un enfant qui aimerait devenir handballeur professionnel?
Alors, pour devenir handballeur professionnel, il faut beaucoup de choses. C'est une formation qui dure à peu près une quinzaine d'années. La première des choses, je dirais, c'est d'être rigoureux, d'être sérieux, régulier, de s'entraîner sérieusement, de croire en soi, d'avoir confiance en soi. Tout le monde peut y arriver avec beaucoup de travail. Après, il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est de garder toujours en tête qu'il faut continuer à prendre du plaisir. Il y a un cercle vertueux où il y a 2 items assez simples. Si on prend du plaisir, on progresse. Si on progresse, on prend du plaisir. Si on prend du plaisir, on progresse. Si on progresse, on prend du plaisir. Et si un jour, on se focalise trop sur la performance, et qu'on oublie un peu le plaisir, en fait, c'est pas possible d'y arriver. Moi, j'ai connu des joueurs qui étaient très très forts chez les jeunes, mais qui voulaient que toujours gagner, qui étaient un peu mauvais joueurs, qui n'avaient pas forcément un bon état d'esprit et qui ne sont pas arrivés. Et j'ai connu des joueurs qui étaient moins forts, qui se sont entraînés très dur, qui ont toujours été sérieux, qui ont toujours pris du plaisir et qui étaient peut-être moins forts au départ, mais qui y sont arrivés. Donc un conseil, je pense, bienveillant, c'est de toujours garder en tête qu'il faut prendre du plaisir, et c'est valable à tous les niveaux. Même un joueur professionnel, s'il prend plus de plaisir, il est pas bon. Et ça joue beaucoup sur ses performances. Et quand il est bien dans sa tête et qu'il prend du plaisir, il est bon. Et c'est valable ça à tous les niveaux. Et surtout vous, le plus important, c'est de vous amuser quand vous faites du handball et même quand vous faites d'autres sports. Voilà.
D'après vous, qui est le favori au JO 2024 de Paris ?
Pour moi c'est la France, surtout vu les dernières performances au dernier championnat d'Europe qu'il y a eu, on peut pas dire autre chose.
Quel est votre joueur de handball préféré ?
Alors pour le clin d'œil, je dirais bien Pascal Léandri, mais je pense que l'un des plus beaux joueurs que j'ai vu en tout cas et qui a joué Ivry aussi, il s'appelait Irfan Smailagic. C'est un peu ancien. Après, il y a son neveu qui a joué au club d'Amir Smailagic, mais moi je pense que ça reste un de mes joueurs préférés en tout cas. Parce qu'il a joué aussi au poste où j'ai évolué, il a joué aussi, pas que, mais aussi demi-centre, parce que c'était un joueur un peu fantasque, très beau à avoir joué, très technique, qui sortait des gestes qu'on connaissait pas forcément à l'époque. C'est quelqu'un qui a créé des choses dans le handball, donc moi j'aime beaucoup les joueurs un peu créatifs comme lui. Moi, j'ai une question pour vous, parce que ça fait très longtemps que je fais des séances de handball dans les écoles primaires. Maintenant, ça fait 12 ans que j'en fais tous les jours. Et j'aimerais bien savoir, vous, maintenant que vous avez un peu de recul, parce que je vous ai eu l'année dernière pour la plupart, je vous ai eu cette année, qu'est-ce que ça vous apporte, ces séances? Est-ce que là, vous êtes capable de dire ce que vous avez aimé, pourquoi, ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi et si, et voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait?
Au début, on prenait une balle et on faisait un exercice à deux. C'était, il y avait une personne au-dessus de nous et nous, il y avait quelqu'un qui s'asseyait par terre. Ensuite, il fallait avoir les réflexes parce que quand il lâchait la balle, on ne pouvait pas savoir quand. Du coup, c'était très dur, mais je me suis facilement habitué. Et le truc préféré que j'ai aimé, c'était le 1v1. Quand il y avait un goal et on était contre une équipe quand Virgile il lançait la balle.
Parfois, on fait des exercices de tir, de passe, de dribble et tout ça. Et à la fin, moi j'ai bien aimé à la fin parce que tout le temps on faisait des matchs et moi j'aimais bien les matchs.
Pas chaque jour, mais à chaque fois qu'on avait sport, Virgile, il nous disait que chaque séance avait un thème. Par exemple, je vais donner un exemple, mais on pouvait avoir, par exemple, les passes. Pour ça, c'était que des passes. Par exemple, on devait s'entraîner à faire des passes à rebond. On devait, par exemple, faire des taureaux. Un taureau, c'est, on va dire, il y a une personne, deux personnes face à face et une personne au milieu. Le but, c'est que la personne qui est au milieu, elle arrive à attraper la balle. Moi, j'ai la balle, je vais faire la passe à la personne qui est à l'autre extrémité. Si la personne, elle arrive à attraper la balle, bah, c'est bien. Et si le taureau, qui est celui qui est au milieu, n'arrive pas à prendre la balle, bah, il reste taureau pour l'instant. Ça peut se jouer à plus que 3, mais là, en tout cas, on le faisait soit à 3, soit à 4. En fait, on s'entraînait de plusieurs manières à faire des passes pour qu'au final, à la dernière séance, on arrive à faire le plus possible tout ce qu'on a appris pendant les séances.
Sinon, quand le thème de la séance était les passes, quand on faisait les matchs, on devait faire un nombre de passes avant d'aller marquer.
Le thème, c'est les tirs. Imaginons, il nous dit tir à rebond ou tir en suspension. Faut faire ce qu'il nous dit. Et tir en suspension, c'est quand t'as la balle, t'es à côté de la zone et tu sautes pour te rapprocher plus du gardien et tirer.
Et dans le match, on rajoute une consigne spécifique par rapport au thème de la séance. Et si on prend par exemple le thème de la passe, le dribble était autorisé. Mais si on avait une partenaire ou un partenaire qui était mieux placé que nous, plus près du but, il fallait faire la passe. Et si on driblait alors que quelqu'un était mieux placé, on perdait la balle. Donc ça obligeait à lever la tête et ça incitait à faire la passe à quelqu'un qui était mieux placé, donc à jouer un peu plus en passe.
Pour jouer plus collectif. Et aussi, on a eu, l'année dernière, j'ai pas pu y aller, mais on a eu des places de handball gratuites, donc moi je l'ai utilisé et avec mon père je suis partie voir un match de handball professionnel. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié les séances. En fait, l'année dernière, j'étais pas aussi impliquée que cette année. Donc, on va dire que l'année dernière, J'ai apprécié les séances, mais c'était pas comme cette année. Cette année, j'ai beaucoup plus apprécié. En plus, surtout, ce que j'ai apprécié, c'était la dernière séance, parce qu'on a fait que des matchs, c'était un grand tournoi, et en plus, les matchs, ils étaient plus longs.
Et c'est vrai que je me souviens que d'ailleurs, l'année dernière, effectivement, tu t'accrochais un peu moins à les séances. On s'est même, toi et moi, un petit peu accrochés à certaines fois, mais cette année, ça s'est très bien passé, parce que t'es même allé essayer le handball sur une ou deux séances avec Pul Chéri, qui entraîne au moins 11 filles. Donc, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ces séances avec toi, et j'espère que ça te donnera envie de t'inscrire au handball la saison prochaine.
Merci, Virgile.
De rien, c'était bien.
C'est bon ?
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
On espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu, que vous avez appris et découvert plein de choses, que vous avez rigolé et que vous vous êtes évadé. Nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine et à très bientôt sur Radio Cartable.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Thank you. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec l'accompagnement technique de Xavier Lecomte, que je remercie et salue très chaleureusement. Cette émission est consacrée à Jessica Nelson et à son cinquième roman, L'Orageuse, paru aux éditions Albin Michel et qui vient de recevoir le prix littéraire de la ville de Verneuil, d'Avre et d'Iton. Ville où repose Louise Collet, le personnage principal de son roman, qui fut notamment la maîtresse de Gustave Flaubert. Mais je laisse à Jessica Nelson le soin de vous présenter les principaux épisodes de cette vie infiniment romanesque. Jessica Nelson, bonjour.
Bonjour.
Donc vous venez de publier aux éditions Albin Michel un roman dont le titre est L'Orageuse, qui est un roman avec pour personnage principal, effectivement, une orageuse, Louise Collet. Et en couverture, je peux lire la citation suivante, « Je peux faire comprendre à toutes les femmes ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut exiger. » Je suppose que cette citation mise en exergue, ce n'est pas un hasard, Jessica Nelson.
Tout est toujours très pensé. Oui, c'est une citation qu'elle a dû envoyer dans une lettre à un député de Roumois à l'époque, dans les années 1850, qui était, qui était son galant, son amoureux. Et c'est un moment de sa vie. Alors sa vie est très riche, très complexe. Elle embrasse tout le 19e siècle. Je pense qu'on le verra ensemble. Et donc c'est une période de sa vie où en effet elle commence à prendre des positions qui sont très affirmées dans tout ce qui concerne le féminisme, hein, puisqu'on peut déjà commencer à parler de féminisme à cette époque-là, l'art, la culture, la politique, et c'est une femme qui assume ses convictions.
Alors pourquoi ce roman, Jessica Nelson? Est-ce que on a l'impression vraiment que Louise Collet, d'abord c'est une ingérable, qu'elle est surdouée. Voilà ce que vous écrivez. Louise était capable de réciter des chapitres d'ouvrages qu'elle n'avait pourtant lu qu'une fois et des pages entières de poésie en plusieurs langues. Donc déjà ça nous situe un personnage hors norme, surdoué, une force de la nature on pourrait dire.
Exactement, je trouve que le terme est très bien trouvé pour elle. C'est une femme qui naît en 1810 dans une famille qui a quelques moyens, dans une famille qui a d'ailleurs une bastide dans le sud de la France, qu'on appelle un peu pompeusement le château de Servannes. Elle est d'ascendance plutôt aristocrate du côté de sa mère et de négociants qui ont quelque argent du côté de son père, mais elle bénéficie d'une éducation qui est assez étonnante pour une femme de cette époque, et elle est dans tout de suite, hein, dès qu'elle est petite, elle a cette appétence pour apprendre, et donc évidemment, comme elle a un père qui va et une mère qui sont des lecteurs, qui sont des gens sensibles à l'art et à la culture, évidemment, elle va tout à fait en bénéficier. Donc elle va apprendre plusieurs langues à cette époque, elle va lire beaucoup, la bibliothèque de son grand-père maternel d'ailleurs, et tout ça va contribuer à en faire une femme extrêmement lettrée dans un siècle où les femmes ne sont pas censées l'être, ou en tout cas c'est pas la norme.
Et pourquoi vous êtes-vous intéressée à Louise Collet? Est-ce que c'est son côté encore qu'on doit la découvrir? Est-ce que ce sont ses lettres, ses manuscrits, puisque vous intéressez beaucoup aux manuscrits? Quel a été un peu votre déclic de départ?
Alors au départ, je pourrais tout à fait honnête, le nom de Louise Collet m'était assez inconnu. Je connaissais la correspondance de Flaubert, notamment pendant les années où Flaubert écrit Madame Bovary, et donc je connaissais le nom Louise Collet par le biais de Gustave Flaubert. Et puis en creusant un petit peu, parce que évidemment aux éditions des Saint-Père dont je m'occupe et qui sont spécialisées dans la reproduction de manuscrits, je m'intéresse aux manuscrits de Madame Bovary, donc je m'intéresse à cette genèse compliquée, donc je m'intéresse à son interlocutrice importante de l'époque. Et je découvre là, à ma grande stupéfaction, j'avais dû lire quelques lettres à l'école, mais guère plus, je découvre quand même que c'est une femme à laquelle il fait beaucoup confiance. C'est une femme à laquelle il va se confier, avec laquelle il va échanger des lettres d'une profondeur et d'une beauté absolue. Mais on n'a pas les lettres de Louise Collet. Alors ça tient à plusieurs hypothèses possibles. Les lettres ont été détruites soit par Louise Collet, soit par Flaubert, soit par la nièce de Flaubert.